Bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc bonjour à ceux qui nous font le plaisir d'être sur place et d'être avec nous ce soir, et ceux qui nous écoutent en direct sur Internet, en direct ou en différé, puisque cette vidéo, dans 10 ans, dans 20 ans, elle sera encore là. Donc on dit bonjour, bonsoir par anticipation à ceux qui nous écouteront dans 10 ou 20 ans. Et donc la soirée est sur YouTube également. Donc à la fin de la conférence, pour notre conférencier que je vais vous présenter dans quelques instants, on pourra faire des commentaires, lui poser des questions sur ce qu'il nous aura présenté. Et pareil pour les personnes qui nous suivent sur YouTube. Alors là, dans 20 ans, ça ne marchera pas. Mais ceux qui nous écoutent en direct ce soir, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions dans le chat sur YouTube. Et je ferai de mon mieux pour les retranscrire à la fin de la conférence. Juste avant de commencer, donc, de vous présenter notre orateur, je vous indique les deux prochaines conférences. Le 1er avril prochain, nous recevrons Corentin Cadieux, qui est un collègue ici de l'Institut d'astrophysique de Paris, un jeune collègue, qui va nous présenter une conférence donc le 1er avril intitulée « L'univers dans une boîte, comprendre l'émergence des propriétés des galaxies grâce à la simulation numérique ». Donc un grand spécialiste de simulation numérique qui nous parlera de ça le mois prochain. Les réservations pour venir nous écouter sur place, c'est à partir de demain. Et puis le 6 mai, nous aurons notre collègue Jenny Source du laboratoire Cristal qui nous présentera une conférence intitulée « Paradoxe de l'univers infini ». Voilà, donc le mardi 6 mai prochain. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir notre collègue Laurent Lamy. Donc Laurent, tu es astronome à l'Observatoire de Paris et au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Tu as également travaillé dans le passé à l'Imperial College à Londres. Tu es spécialiste des planètes, tu travailles essentiellement sur les planètes du système solaire, surtout leur magnétosphère, les aurores autour de ces planètes, les plasmas spatiaux. Tu es impliqué dans différentes expériences où tu as été impliqué d'instruments spatiaux. J'en ai noté quelques-unes, Cassini, JUICE, Solar Orbiter, dans des instruments au sol également, notamment à Nancy, donc qui dépend de l'Observatoire de Paris, où tu es très impliqué sur les observations radio de ces objets-là, le projet LOFAR, le projet SKA. Comme tu es astronome, également tu enseignes la physique à l'Université d'Aix-Marseille. Tu es également très impliqué dans la diffusion des connaissances avec le Festival d'astronomie de Provence que tu as contribué à créer il y a quelques années. Et puis, tu me l'as dit tout à l'heure, une exposition sur les observatoires qui sera bientôt diffusée, visible à Marseille, en Provence et à Paris également. Et ce soir, donc, tu nous présentes une conférence intitulée « Des aurores et des planètes, voyage dans le monde invisible des magnétosphères ». Voilà, je t'en prie.
Eh bien, merci Guillaume. Bonsoir et bienvenue. Bon, d'abord, oui, un grand merci à Guillaume et pas seulement, à l'équipe technique et Jean Mouette notamment qui est à côté. Moi, j'discute souvent avec des astronomes amateurs et ils me disent combien c'est génial d'avoir cette banque en fait de conférences qui sont filmées et accessibles depuis des lieux reculés de France. Donc, merci pour tout ça. Continuez, c'est très chouette. Effectivement, je viens de Marseille, j'y étais ce matin, je vous avoue qu'au niveau météo, je n'ai pas gagné énormément au change, c'était un peu mieux cet après-midi, et en tout cas, je suis très content d'être là ce soir. Alors, j'ai proposé un sujet ce soir que je vais essayer d'expliquer sans formule. Il y a quelques figures un petit peu compliquées, mais ne vous découragez pas, je ne savais pas vraiment si vous aviez l'habitude, je vois qu'il y a des gens qui assistent à beaucoup de conférences, s'il y avait des étudiants, j'imagine qu'il y en a là dans des formations en physique, vous pourrez me poser les questions que vous voulez à la fin, mais voilà, c'est prévu pour essayer de parler au plus grand nombre. Alors, ce soir, je vais vous parler de choses qu'on ne voit pas avec nos yeux, qui correspondent à des cavités qu'on trouve autour des planètes qui possèdent un champ magnétique. Je reviendrai sur cette notion plus tard. Et cette cavité, en fait, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, elle a des propriétés très spécifiques qu'on étudie depuis une cinquantaine d'années. Et notamment, un champ magnétique, hein, ça a la capacité d'agir sur le mouvement des particules avec une charge électrique. En physique, on appelle ça un plasma. Et comme le plasma correspond à 95% de l'univers observable, on peut se poser des questions avec ces laboratoires de physique naturelle des plasmas pour comprendre des questions fondamentales comme le transfert et la dissipation d'énergie. Donc je vais parler des aurores ce soir parce que c'est des émissions lumineuses qui permettent d'étudier ces objets qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Alors, vous aviez quelques exemples là, sur cette vue d'artiste. On va revenir au commencement en prenant le cas terrestre. La Terre, vue de loin en tant que planète, hein, c'est un objet qui renvoie de la lumière. Cette lumière, comme vous savez, c'est essentiellement la lumière solaire qui est réfléchie par l'atmosphère. Quand on est côté nuit, on ne voit pas grand-chose. si ce n'est les lumières qui sont produites par les villes hein, ou les êtres humains qui peuvent produire de la lumière. Mais moi, là, ici, je m'intéresse uniquement à la notion de lumière physique, donc réfléchie ou intrinsèque. Néanmoins, la Terre, c'est aussi, comme d'autres planètes avec un champ magnétique, une source de lumière intrinsèque. Et la plus intense de ces lumières, eh bien, c'est celle qu'on peut observer dans le ciel sous les hautes latitudes. Et donc, l'année dernière, en mai, vous avez peut-être été spectateur de ce type d'émission lumineuse très intense qu'on trouve dans le ciel jusqu'à de grandes altitudes, qui est très peu courant en France, hein, mais qui arrive de temps en temps. Et donc, le 10 mai, bah, ça nous a remis en tête qu'il existe des phénomènes qui se passent aux hautes latitudes hein, et qu'on peut aussi observer de temps en temps en France. Et ça, c'est une photo du film que je montrais juste avant, hein, qui a été prise par Emmanuel Baudouin sur les bords de Loire, hein, où, qui n'est pas du tout près du cercle arctique, où on a l'habitude de voir des aurores. Juste pour ma gouverne personnelle, qui a vu les aurores du 10 mai dans la salle ? Levez la main. Vous êtes chanceux, bravo. C'était pas mon cas, hein, je vous le dis tout de suite. Alors ça, c'est une autre photo qui a été prise au Puy de Dôme. C'est des émissions qu'on a observées dans toute la France. Alors on peut voir sur ces photos que bon, les aurores, ce sont des phénomènes lumineux, ok. Ils sont structurés, hein, ils ont la forme de pinceaux, ils ont différentes couleurs. Ils s'arrêtent assez au-dessus du sol. Ça, c'est une vue du Mont Saint-Michel, hein, qui fera toutes les cartes postales de l'année prochaine, j'imagine. Ça, c'est une photo qui a été prise par Nicolas Biver, un collègue de l'Observatoire, qui était à une soirée d'observation. Alors là, ils avaient prévu d'observer le ciel ce soir-là, et puis ils ont passé leur nuit en Touraine, donc à observer des aurores. Château de Chambord, hein, voilà, ne boudons pas notre plaisir, c'est quand même exceptionnel d'avoir un fond comme ça derrière le Château de Chambord. Et puis, donc, ça a été observé jusqu'au sud de la France. Et c'est ça qui est particulièrement atypique. Là, c'est une photo qui a été prise depuis le plateau de Calerne, de collègues, d'observateurs solaires, hein, d'habitude, qui travaillent à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et je voulais finir ce petit panorama par cette photo qui a été prise du Mont Ventoux, parce que ce soir-là, il se trouve que j'étais au pied du Mont Ventoux, puis je n'avais pas du tout été alerté qu'il y allait avoir un épisode auroral important. Et donc, le lendemain, je me suis réveillé, comme tout le monde, avec la presse. « Oh là là, il y a eu... une tempête géomagnétique cette nuit, il y a des aurores qui ont été observées dans toute la France, et comme la majeure partie d'entre vous, eh ben voilà, j'étais très déçu. Alors, ces émissions aurorales, on peut les observer depuis la Terre, depuis longtemps. J'ai cité quelques propriétés, ce sont des émissions intenses, hein, on peut les voir à l'œil nu, on les voit quand il fait nuit, il y a des couleurs, elles sont structurées. Et là, je voulais vous montrer ce qui se passe quand on les observe d'un peu plus haut. Ça, c'est une compilation d'images qui sont prises par des astronautes de la Station Spatiale Internationale. C'est une animation que j'avais faite pour une autre étude dont je parlerai tout à l'heure. Et là, l'avantage, c'est qu'à l'altitude de la Station Spatiale Internationale, on peut voir les aurores par la tranche. Et là, ici, on voit donc l'extension, l'altitude de ces émissions. On voit qu'elles sont très dynamiques. Hein. Vous avez des régions actives qui bougent comme ça le long de rideaux lumineux, ou alors ça clignote. Et ici, vous voyez que voilà, c'est quelque chose de très intense qui couvre une grande partie en fait, des régions polaires. Alors, je voudrais d'abord revenir sur le phénomène lumineux. Ça fait aller un siècle, un petit peu plus d'un siècle. Alors, je parle sous le contrôle d'experts des aurores terrestres qui me font l'amitié d'être dans la salle ce soir, qui me corrigeront si je dis des bêtises. Ça fait plus d'un siècle qu'on étudie les aurores depuis le sol, avec des campagnes d'observation qui sont menées depuis les latitudes où ce phénomène est observé la plupart du temps, hein, c'est-à-dire en Scandinavie, en Islande, dans le nord du Canada. Et donc, on a maintenant une bonne compréhension du phénomène lumineux qui est produit en fait par l'afflux dans l'atmosphère de particules avec une charge électrique, des électrons, mais aussi des protons parfois, et qui impose des collisions au milieu de la haute atmosphère neutre qu'on trouve à haute altitude, et sous l'effet de ces collisions, les espèces chimiques qui constituent l'atmosphère emmagasinent de l'énergie, et cette énergie, hein, qui ne peut pas être gardée, est restituée sous la forme de lumière. Donc c'est un phénomène de luminescence qui produit de la lumière correspondant aux espèces chimiques qui sont activées. Alors, des phénomènes de luminescence sur Terre, on en connaît plein hein, dans les technologies d'éclairage. Ce qui se rapproche le plus, en fait, c'est ces ampoules à tortillons là, dans lesquelles on fait passer un courant électrique qui active le milieu à l'intérieur de l'ampoule et qui permet de faire de la lumière. Donc ici, hein, les aurores, c'est vraiment un phénomène d'émission par impact. Donc les différentes couleurs correspondent pas chacune à une espèce atomique. En physique quantique, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On a des raies, c'est-à-dire des couleurs très très précises qui sont produites par telle ou telle molécule. Et puis on peut avoir un assemblage de raies qui donne une couleur globale à la fin. Donc là, c'est une représentation, en fait, une coupe des aurores en fonction de l'altitude. Donc sur ce graphe, on voit que ce sont des émissions qui peuvent descendre jusqu'à 50 km au-dessus du niveau du sol, hein, donc les avions passent dessous. Et puis, en période d'émission aurorale intense, on peut avoir des rideaux qui s'étendent jusqu'à 400, parfois 800 km d'altitude. Donc ce sont des émissions très très étendues en altitude. Et là, vous avez trois couleurs qui correspondent à trois raies particulièrement intenses. Hein. Quand on regarde ce qui se passe au-delà de 200 km, c'est essentiellement la raie rouge de l'oxygène atomique, donc sous sa forme isolée qui est responsable de cette couleur rouge. Le vert, c'est plutôt l'oxygène atomique dans la basse atmosphère. Et puis le violet, c'est plutôt dû à la molécule de diazote. Alors ça, c'est ce qu'on peut voir avec nos yeux, qui sont sensibles au domaine visible du spectre électromagnétique. Évidemment, les espèces chimiques qui sont dans l'atmosphère sont beaucoup plus variées que ça, et on trouve des espèces ionisées ou des espèces atomiques différentes qui peuvent rayonner dans d'autres gammes de longueurs d'onde, notamment en UV. Donc si on mettait des lunettes UV, on verrait la même chose, enfin on verrait avec un contraste différent, disons, le même type de signature qui correspondrait à d'autres espèces chimiques. Ces émissions lumineuses, donc là, les aurores telles qu'on les voit et puis qui s'étendent jusqu'à la gamme UV, elles sont produites par un même mécanisme d'émission. C'est le mécanisme d'émission par impact que j'ai présenté brièvement tout à l'heure. Il se trouve que quand on a une population de particules énergétiques qui tombe dans une atmosphère, ça peut générer aussi des émissions lumineuses via d'autres mécanismes. Et on peut aussi observer ces émissions aurorales dans d'autres domaines de longueur d'onde, que je mentionne ici juste par souci d'exhaustivité, mais j'en parlerai pas trop aujourd'hui, sauf si vous avez des questions. Depuis les débuts de l'ère spatiale, on a détecté des émissions dans le domaine radio. Ça correspond à une instabilité électron-onde qui agit en fait au-dessus de l'atmosphère, juste au-dessus des aurores, et qui produit des ondes radio qu'on peut détecter de très loin. Ça, c'est intéressant parce qu'on en a détecté autour de toutes les planètes avec un champ magnétique dans le système solaire. Et là, ici, vous avez une carte qui a été prise par le télescope X-Chandra, où on voit des émissions qui sont produites cette fois-ci par des processus plus complexes d'échange de charges entre des ions lourds, ionisés beaucoup de fois, et puis le milieu neutre, ou alors du rayonnement de freinage des électrons. Bon, je passe là-dessus, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Compris l'origine du phénomène lumineux, on peut s'intéresser à la provenance de ces particules chargées électriquement, qui sont la source, en fait, hein, de ce phénomène lumineux. Et s'intéresser à pourquoi, par exemple, il y a une granulation ici, il y a une espèce de périodicité dans les rideaux lumineux qu'on voit. Alors, les phénomènes auroraux, ils sont observés, je vous le disais, depuis plus d'un siècle par des observateurs qui sont situés près du cercle arctique et qui ont pu, en compilant les données de nombreuses campagnes d'observation, construire des cartes comme celle-là, qui est une carte polaire où les différentes lignes correspondent à des isocontours d'occurrence. Et plus on s'écarte de cette ligne jaune qui correspond au maximum de probabilité d'observer une aurore, moins on a de probabilité d'en observer. Mais vous voyez que en France, on est quand même intercepté par certaines de ces lignes. Ça veut dire qu'il est possible, même si ce n'est pas probable, d'observer des aurores jusqu'à nos latitudes. Le plus probable, hein, c'est d'en observer le long de ce cercle auroral qui est organisé autour du pôle magnétique qui se situe dans l'hémisphère nord géographique et qui a mis en évidence en fait un rôle primordial du champ magnétique qui a été intuité par un physicien norvégien qui s'appelle Birkeland, qui était un observateur des aurores, et qui a le premier compris la nature un peu profonde de ces phénomènes lumineux et le rôle du champ magnétique sur leur génération. Alors là, on voit Birkeland avec son célèbre chapeau, et puis une expérience qu'il avait baptisée la Terella, dans laquelle, donc ça correspond à un caisson, hein, dans lequel il a fait un vide primaire, qui correspond à peu près au vide qu'on trouve à 60 km d'altitude au-dessus du niveau du sol. Et sur cette, dans cette sphère, dans cette cuve à vide, il a disposé une sphère à l'intérieur de laquelle il a placé un barreau aimanté, hein, pour simuler en fait une planète avec un champ magnétique. Sur cette sphère, il a envoyé des électrons. Et donc, il a placé une plaque photographique sur la surface de la sphère, et voilà ce qu'il a vu, c'est-à-dire un signal, en fait, qui prend la forme d'un ovale, ici. Et j'aime bien rappeler j'aime bien montrer cette figure parce qu'il a fallu un siècle pour prendre une photo un petit peu similaire de la Terre avec des sondes spatiales de suffisamment loin pour pouvoir révéler une structure qui est quand même frappante de similitude. Donc c'est une photo qui a été prise par le satellite Dynamic Explorer 1 en 1985 dans la gamme UV. Hein, donc on reconnaît la partie éclairée par le soleil qui est ici, la partie nuit, et puis un ovale auroral avec des émissions intenses qui sont situées plutôt du côté nuit et pas du côté jour. Alors ça, c'est une autre vue de la Terella de coupe, en fait, c'est une photographie. On a des électrons dans l'environnement, ils sont structurés par le champ magnétique, ils produisent de la lumière, et cette lumière, elle se localise autour des pôles magnétiques. Et vous voyez, on a cette photo qui a aussi été prise par le satellite Dynamic Explorer 1, qui a été très célèbre parce qu'elle a été surnommée la tête couronnée, qui montrait pour la première fois les aurores observées dans les deux hémisphères, vues depuis la tranche. Alors je vous disais, on a dans la salle quelqu'un qui est spécialiste de ce sujet et qui a eu l'idée d'aller reconstruire la Terella originale de Birkeland avec l'équipe suédoise qui hébergeait les reliques de cette expérience pour en faire une expérience moderne qui s'appelle la planète Terella. Donc c'est Jean Lienstein qui est ici, qui est directeur de recherche émérite à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble et qui a eu cette idée géniale de refaire une expérience de laboratoire dans laquelle on peut recréer des conditions qui permettent de voir des aurores. C'est exactement ce que vous voyez sur cette photo que j'ai prise. On voit apparaître de l'émission lumineuse avec des couleurs qui vous rappellent des couleurs que vous avez déjà vues tout à l'heure, dont on peut étudier les transitions, et puis qui s'accumulent sur certaines régions. Et puis, c'est une expérience qui est transportable et donc avec laquelle on peut s'amuser à changer les gaz, par exemple, qui sont à l'intérieur pour vérifier comment évolue le signal lumineux en fonction des espèces chimiques qu'on met à l'intérieur. C'est une vocation pédagogique très forte. Mais mon propos, c'est de... J'aimerais revenir sur la notion de champ magnétique. Donc, quand on manipule une boussole... La boussole, comme tous les matériaux ferromagnétiques, elle est sensible à la présence d'un champ magnétique. Ce champ magnétique, en fait, il a une polarisation, une topologie, il s'organise sous la forme de lignes, et quand on se déplace avec une boussole, elle s'oriente sur l'axe nord-sud lié au champ magnétique. Donc vous avez peut-être fait l'expérience au lycée avec de la limaille de fer, vous secouez de la limaille de fer avec un aimant, et puis vous voyez apparaître ce genre de ligne, là, ici, qui dessine en fait les lignes de champ magnétique qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et ben, c'est exactement la même chose qui se passe quand on travaille avec des particules avec une charge électrique, donc un plasma. Ils vont être sensibles à ce champ magnétique. Et donc là, vous avez une représentation d'une planète. Hein, une planète magnétisée, c'est juste une planète avec un barreau aimanté qui produit en son cœur. Donc la génération de ce champ magnétique, elle passe par l'écoulement de matériaux très chauds, ionisés, avec des mouvements de circulation qui permettent de maintenir un champ magnétique. C'est une loi de la physique qui fait que quand on a des particules des particules avec une charge électrique en mouvement, on génère un champ magnétique. Puis ce champ magnétique, vous voyez, il a cette topologie en forme d'oreille. Et donc quand on met des particules avec une charge électrique là-dedans, elles sont guidées le long des lignes de champ magnétique. C'est exactement comme des perles qu'on enfile sur un fil. Si on met des électrons là dans l'environnement, eh bien, ils vont être piégés en fait, le long de ces lignes de champ magnétique. Alors, il y a déjà un effet de convergence magnétique que vous pouvez voir à cause de la géométrie un peu particulière de ce dipôle magnétique. Si vous mettez des électrons partout, ben, vous voyez qu'ils vont en fait, se projeter en fait, de préférence autour des pôles magnétiques. Donc, c'est là qu'on va trouver l'activité dont on va parler juste après. Quand ces électrons acquièrent une énergie suffisante, ils peuvent atteindre l'atmosphère ou en précipitant dans l'atmosphère, en collisionnant les particules chimiques qui composent la haute atmosphère, ils forment les aurores que je vous ai déjà montrées tout à l'heure. On en a dans l'hémisphère nord, et elles prennent la forme d'un ovale parce qu'il y a des particules tout autour, à toutes les longitudes, en fait, autour de la Terre, qui peuvent avoir l'énergie nécessaire pour tomber dans la haute atmosphère. Celles qui sont dans l'hémisphère nord géographique, on les appelle les aurores boréales, et celles qui sont dans l'hémisphère sud, qu'on connaît depuis les voyages du capitaine Cook, on les appelle les aurores australes. Elles sont conjuguées magnétiquement, c'est-à-dire qu'une même ligne de champ magnétique peut alimenter les deux hémisphères. On a des émissions lumineuses qui sont colocalisées des deux côtés. Et donc, comme vous voyez que les pôles dont il est question ici, ce sont les pôles magnétiques, on parle plutôt d'aurore polaire, plus que d'aurore boréale, qui renvoie vraiment à juste ce qu'on peut observer dans l'hémisphère nord géographique. Ça va jusque-là? Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Alors, maintenant qu'on a dit ça, et qu'on sait que le champ magnétique va avoir un effet particulier sur le mouvement des particules de l'environnement terrestre, on va s'intéresser à cet environnement. Et pour ça, il faut revenir à cette image, cette animation du Soleil que j'ai mise ici pour illustrer le fait que le Soleil, c'est une étoile qui, à part des réactions de fusion, consomme des matériaux chimiques et qu'il a une activité qu'on peut voir ici sur une image. Donc, c'est un film qui a été pris par l'observatoire SOHO dans l'extrême UV. Ce qu'on voit ici, donc, c'est des régions actives avec des petits pinceaux brillants ici qui correspondent à des lignes de champ qu'on visualise parce qu'il y a de la matière qui est chauffée et qui produit de la lumière sur ces lignes de champ magnétique. Donc, le Soleil est une boule avec un champ magnétique. Puis surtout, ces régions actives ici, elles produisent de la matière qui s'évacue dans le milieu interplanétaire et qui forme ce qu'on appelle le vent solaire. C'est un flux de particules chargées électriques, parce que le Soleil est très chaud, donc les particules ont une charge électrique, les électrons et les protons sont découplés. Et ce vent solaire s'expand dans toutes les directions, radialement, c'est-à-dire qu'il va tout droit, et il se propage à très haute vitesse, la moyenne étant à peu près 400 km par seconde. Donc le Soleil, pour nous, émet deux choses. Il émet de la lumière, qui parvient à nous en 8 minutes, lumière, et puis il émet de la matière, le vent solaire, qui met à peu près 2 jours à parvenir à la Terre. Là, vous avez une autre visualisation du vent solaire. Cette fois-ci, on a caché, c'est le principe du coronographe, on cache la région brillante au centre, et puis de cette manière, on peut observer avec un très beau contraste en fait, ce qui se passe au niveau de la couronne solaire, c'est-à-dire la partie de la haute atmosphère qui s'expand dans le milieu interplanétaire qui forme le vent solaire. Et puis vous voyez qu'ici, on a des jets continus de matière. Et puis de temps en temps, on a des phénomènes transitoires qui éjectent des bulles de plasma particulièrement denses, chaudes et rapides dans une direction particulière. Alors quand ce vent solaire arrive au voisinage de la Terre, il rencontre donc un obstacle avec un champ magnétique. Et je vous ai dit tout à l'heure que le champ magnétique, en physique des plasmas, il a la particularité d'organiser le mouvement des particules chargées. Et donc, ces particules, en première approximation, vont faire le tour de cet obstacle et ça va dessiner cette cavité magnétique à l'intérieur de laquelle le mouvement des particules est dominé par le champ magnétique planétaire et à l'extérieur de laquelle le mouvement est dominé par l'inertie du vent solaire qui s'écoule sur les flancs. C'est comme un caillou dans une rivière. C'est cette cavité qu'on appelle une magnétosphère. Et pour comprendre ce qui se passe, alors ça c'est un schéma un petit peu compliqué. Les gens travaillent sur cet objet depuis les débuts de l'ère spatiale, la détection des ceintures de Van Allen. Donc depuis les années 60, c'est une discipline qui est relativement jeune. 70 ans, c'est pas si vieux à l'échelle de la science. Bon, il y a plein de régions particulières. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous dire que c'est un objet d'étude assez complexe. Ce qu'on a décrit depuis tout à l'heure, c'est que en partant de la Terre, on sait qu'il y a de la lumière. Cette lumière elle est produite par des particules chargées qui ont une certaine énergie et qui viennent de quelque part dans la magnétosphère. Et donc, quand elles tombent dans l'atmosphère, ça fait des aurores. Donc, ces aurores, en fait, elles nous renseignent sur ce qui se passe, en fait, les lieux d'accélération de particules dans le voisinage de la Terre, donc les régions actives de la magnétosphère. Comment on comprend ça, en fait, en termes d'interaction avec le vent solaire? Eh bien, on fait intervenir... là c'est un petit schéma que j'avais mis, juste pour illustrer le fait que quand on regarde avec une photographie, une sonde spatiale, l'ovale auroral, vous voyez qu'il est plus intense du côté nuit, qui n'est pas éclairé, la planète. Ça veut dire que c'est dans la région antisolaire que se produisent les phénomènes qui donnent l'énergie nécessaire aux particules pour venir allumer des aurores. Ce n'est pas du côté jour que ça se passe. Et comment on comprend ça? Eh bien, il faut reprendre la notion de champ magnétique. La Terre est une planète avec un barreau aimanté en son centre. C'est le cas aussi du Soleil. Donc la matière qui est émise, en réalité, elle transporte un champ magnétique qui correspond à ces lignes ici en pointillés. Et puis ces lignes en pointillés, elles rencontrent des lignes de champ magnétique ici qui relient le pôle nord magnétique, qui est au sud, dans l'hémisphère sud géographique, au pôle sud magnétique à la Terre. Donc ici intervient la notion de polarité. Les aimants, ils ont une polarité, il y a un pôle nord et un pôle sud, et ce n'est pas pareil de le tenir dans un sens ou dans l'autre quand on approche un autre aimant. Il y a une configuration pour laquelle on va être dans le même sens, et donc les aimants vont s'attirer, une configuration dans laquelle on sera antiparallèle, et là, ce ne sera pas stable, les pôles vont se repousser. Donc le champ magnétique sur Terre, il est dirigé ici vers le bas, et puis si on suit une ligne de champ magnétique, sa polarité, son sens en fait, la direction nord-sud, au niveau du nez de la magnétopole, c'est-à-dire au point subsolaire, elle est dirigée vers le haut. Vous êtes d'accord? Alors, du côté Soleil, on a deux cas de figure. Si le Soleil, si les lignes de champ magnétique sont polarisées dans la même direction, eh ben on se retrouve avec deux aimants qui sont à peu près dans une configuration parallèle. Et là, il ne se passe rien de particulier. C'est une configuration dans laquelle il n'y a pas d'interaction spécialement entre les lignes de champ magnétique interplanétaires et planétaires. Le vent solaire s'écoule sur les flancs de la magnétosphère et la magnétosphère peut être considérée comme une cavité étanche, isoélectrique, elle n'est pas sensible au vent solaire. Par contre, si l'orientation des lignes de champ magnétique solaire est dans l'autre sens, c'est-à-dire du haut vers le bas, ici, on se retrouve dans une configuration qui est instable. C'est comme si on avait un aimant avec un pôle sud qui faisait face à un pôle nord. Et ça, cette configuration, elle mène en général à une réorganisation des lignes de champ magnétique. Il peut y avoir une rupture ici des lignes de champ magnétique et une connexion magnétique entre les lignes de champ interplanétaires qui transportent le matériau qui provient du Soleil et puis les lignes de champ planétaires. Donc vous prenez ces deux aimants-là. Et puis vous les reconnectez chacun avec le pôle qui est le plus proche, et ça vous donne cette configuration-là, dans laquelle le plasma qui est transporté par le vent solaire peut à ce moment-là pénétrer dans la magnétosphère. Donc ce sont des conditions très spécifiques, mais quand ça se produit, le plasma rentre dans la magnétosphère et il va se stocker plutôt du côté nuit. Il perd sa nature de plasma solaire. Il y a une source de plasma à l'intérieur de la magnétosphère terrestre qui est la haute atmosphère. Il y a des particules qui s'échappent comme ça et qui restent dans l'environnement terrestre. Et il se stocke côté nuit. Et c'est peut-être le seul diagramme compliqué que j'ai ici. C'est quand on accumule de la matière avec une charge électrique du côté nuit de la magnétosphère, c'est comme un ballon qu'on gonfle. On stocke de la matière, et au bout d'un moment, les lignes de champ s'allongent, elles s'étirent, et au bout d'un moment, on ne peut plus rajouter de matière, il y a une rupture, le ballon craque, et le plasma qui est stocké ici sur ces lignes de champ est ramené violemment vers la planète, et c'est à ce moment-là qu'il acquiert de l'énergie, qui lui permet d'atteindre les énergies suffisantes pour tomber dans l'atmosphère et faire les aurores brillantes qu'on voit. Donc ce phénomène, il a un nom. Il s'appelle les sous-orages. C'est un phénomène qui est cyclique, qui existe tout le temps, et une durée d'un sous-orage, typiquement, c'est 12 heures. Donc, ce phénomène, sous-orage, il ne dépend que de la polarité du champ magnétique. Il ne dépend pas de l'activité solaire. Il dépend de l'orientation du champ magnétique qui varie au cours de la rotation du Soleil. Alors, le suivi avec un spectro-imageur auroral de ce que c'est qu'une séquence de sous-orages. Là, vous avez un ovale auroral en période calme, et puis vous voyez que ça s'allume, il y a une région d'émission qui grandit, et ça, c'est la signature justement de l'injection de particules côté nuit. Ça veut dire que le phénomène de sous-orage est en train de se produire, qu'il y a un afflux de particules important avec une énergie suffisante pour produire ces émissions lumineuses. Vous voyez que les aurores changent de forme, il y a des régions actives, elles s'étendent en latitude, à la fois vers les hautes et vers les basses latitudes. Et puis la fin du cycle, c'est on retourne vers un ovale auroral calme. Alors j'ai insisté là-dessus parce que souvent quand on lit la presse, il y a des raccourcis qui sont faits qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Alors ça, c'est un petit schéma qu'a fait un collègue qui travaille aussi à l'Obs de Paris qui s'appelle Fabrice Mottez, qui a publié un bouquin dont je vous donnerai les références tout à l'heure. Et voilà, souvent, quand on lit un compte-rendu de ce qui s'est passé dans le ciel la nuit d'avant, on vous dit « Ah oui, il y a des électrons, des protons qui arrivent du vent solaire, ils arrivent et pan, ils sont piégés dans le champ magnétique, ils tombent dans l'atmosphère et ça fait des aurores. » Vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a tout un mécanisme de topologie, d'entrée dans la magnétosphère, de stockage du plasma, de réaccélération. Et cette notion des sous-orages, hein, c'est un nom un peu barbare, je vais vous expliquer après pourquoi ça s'appelle comme ça. Il faut bien voir que la communauté scientifique travaille depuis 50 ans dessus avec une flopée de missions spatiales pour comprendre exactement la microphysique de ce qui se passe. Donc on est loin de cette image que peut-être parfois vous aviez avant de venir à cette conférence et que vous n'aurez plus en sortant. Alors, dans le cas de la Terre, on est plutôt bien fourni. Depuis les années 60, on a envoyé plein de satellites dans l'espace, notamment des orbiteurs polaires qui sont passés au-dessus des pôles magnétiques, qui ont pu voir in situ ce qui se passe, donc fournir des images très précises de la précipitation de ces particules chargées, mesurer la lumière, la puissance rayonnée, et puis avec des instruments, des spectromètres à électrons, mesurer exactement ce qui se passe au-dessus des régions d'émission sur les lignes de champ magnétique qui tombent dans les aurores. Donc là, vous avez quelques exemples d'images qui ont été prises par différentes sondes. À l'heure actuelle, il y a toujours des flottilles de satellites. Alors, on est passé des années 60, 70, 80, 90, des satellites monopoints. Maintenant, on est plutôt dans l'ère du multipoint. À la Terre, on a des flottilles de satellites. Donc là, il y en a 4, 4 et puis 4. Ces flottilles de satellites, elles permettent d'aller un cran plus loin dans l'étude des phénomènes physiques en fournissant des mesures multipoints. Donc, par exemple, ces épisodes de reconnexion magnétique, on peut les étudier in situ quand on a les satellites qui sont disposés dans une bonne configuration et où cet événement se produit. Donc c'est important de pouvoir observer au long cours et avec suffisamment de satellites et la résolution qu'il faut pour aller au cœur de la physique de ce phénomène. Alors, je veux parler maintenant des orages et revenir à notre propos. Ça, c'est une petite animation. Donc, on se place dans une configuration où la magnétosphère est dans sa configuration standard. La topologie des lignes de champ est toujours dirigée vers le haut ici. Et puis, on a une configuration où on peut avoir des sous-orages qui se développent avec un champ magnétique interplanétaire, donc dans le vent solaire dirigé vers le bas. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir un vent solaire normal, on va avoir un vent solaire actif, c'est-à-dire qu'il y a une bulle de plasma. Vous avez vu tout à l'heure, des fois, il y a des bulles de plasma qui se dirigent vers la Terre, qui sont très denses. Et quand une bulle de plasma, dans ces conditions-là, intercepte la Terre, ce qui se passe, c'est que ça force le déclenchement d'un sous-orage. Et ça va donner naissance à des émissions particulièrement intenses et qui vont venir concerner des latitudes particulièrement basses. Donc on appelle ça des sous-orages, parce qu'on a observé ça initialement pendant des orages et des orages géomagnétiques. C'est juste, on a une bulle de plasma qui vient compresser violemment la magnétosphère terrestre. Et ça, on peut le mesurer facilement au sol avec des magnétomètres. Et c'est ça qui s'est passé le 10 mai 2024 et les jours précédents, et aussi le 10 octobre, puisqu'on a eu une répétition de ce type d'épisode avec des aurores observables à nouveau en France le 10 octobre. Je les ai ratées aussi, et vous ? Ouais, c'est pas grave, heureusement on a des belles images. Alors ça, c'est une photo de la surface solaire. Alors, vous savez qu'à la surface du Soleil, si on observe en lumière visible, on a des espèces de taches comme ça qui diagnostiquent des régions actives. Et puis plus on a de taches, plus elles sont grosses, plus les régions actives sont imposantes, importantes, et puis peuvent générer des bulles de plasma fréquentes et puis avec des caractéristiques particulières. Et là, vous avez la région active qui a mené à l'éruption d'un jet de plasma qui a provoqué les aurores sur Terre 2 jours plus tard. Vous avez la Terre ici à l'échelle, donc c'est une région particulièrement grande. C'est l'une des 2 plus grandes qu'on a jamais mesurées à la surface du Soleil. Là, vous avez sur le disque. Les petits numéros, ça correspond à des régions actives qui sont suivies puis qui tournent avec le Soleil. Et le 8 mai 2024, voilà ce qu'on a observé en lumière visible, voilà ce qu'on a vu avec un coronographe, il y a eu l'éjection d'une énorme bulle de plasma qui était dirigée vers la Terre, donc qui a pu être tracée avec des techniques, on peut mesurer la vitesse avec des données d'imagerie de loin, là vous voyez le site de l'éruption. Cette bulle de plasma s'est déplacée à très haute vitesse, elle a mis un peu moins de 2 jours à atteindre la Terre. Et donc, 2 jours plus tard, cet orage qui a compressé violemment, cette bulle de plasma, elle a compressé violemment la magnétosphère terrestre. Ça s'appelle un orage géomagnétique. Cet orage géomagnétique a induit un sous-orage qui, lui, a généré des précipitations aurorales qui ont été observées jusqu'aux très basses latitudes, jusque chez nous. Et alors là, je vais vous montrer une petite animation qui montre des observations des aurores avec des satellites qui font le tour des orbiteurs polaires et qui couvrent qu'une partie, en fait, à chaque fois qu'ils passent de l'ovale aurorale. Ça, c'est boréal, ça, c'est austral, donc au nord, au sud. Là, vous avez les latitudes. Donc, normalement, l'ovale aurorale calme, vous voyez qu'il est autour de 65 degrés de latitude. Ici, vous avez la limite 50, et puis la France, on est à 40, 44, donc on est juste à côté. Donc, regardez bien, c'est une petite animation. Vous avez les heures en haut, ça c'est le 10 mai. Voilà, vous avez les heures qui défilent. Et à un moment, vous allez voir, le déclenchement du sous-orage, voilà, ça devient tout rouge, ça descend en latitude, ça déborde complètement là. Et donc, c'est pour ça, hein, comme on était situé sous ces émissions orales, qu'on a pu les voir depuis la France. Mais ça a été observé aussi depuis le nord du Maghreb, hein, c'est descendu très, très bas. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu de chance, mais qui croient toujours, c'est la bonne période. L'activité solaire, elle est périodique, elle a un cycle de 11 ans, et il se trouve qu'en ce moment, on arrive un peu en période de maximum solaire, où ce type d'éjection de bulles de plasma particulièrement dense, chaude et rapide, véloce, est fréquent. Donc, si vous voulez être sûr d'observer des aurores, c'est le moment de prévoir un voyage quelque part en Norvège ou en Islande. C'est le bon moment. Dans 5 ou 10 ans, ce ne sera plus le bon moment. Alors, observer des aurores, ça se prévoit. Là, je vous ai parlé du principe. On a tout un tas d'indicateurs qui nous permettent d'anticiper l'activité aurorale et, de manière plus générale, l'activité géomagnétique, c'est-à-dire ce qui se passe en fait dans cette cavité qui est la magnétosphère terrestre. Alors, vous avez des sites hein, pour ça que vous pouvez aller consulter qui vous donnent la position en temps réel de l'ovale aurorale. Hein. Donc, si vous prévoyez un voyage aux États-Unis puis que vous avez un vol qui doit passer par là, asseyez-vous du côté droit, hein, puis demandez au steward d'être réveillé si jamais vous voyez que l'activité aurorale est élevée. Vous avez des indices. Alors, il y en a une flopée. Hein, l'indice le plus utilisé, c'est l'indice KP. On vous dit à côté, si c'est vert, ça veut dire que c'est calme. Si c'est rouge, ça veut dire que ça va être élevé. Il varie typiquement jusqu'à 9. Et puis dans l'épisode qui me concernait, là, le 10 mai, on était à 8 ou 9. Vous avez voilà, d'autres choses. Ça, c'est un site que vous pouvez aller consulter, Space Weather Live, qui est gratuit. Vous avez à nouveau l'ovale, l'indice KP, les données dans le vent solaire, les prévisions. Et puis, un mot quand même, parce que je ne vais pas en parler dans le reste de l'exposé, mais discipline qui consiste en fait à prévoir l'activité solaire pour comprendre ce qui se passe dans l'environnement géomagnétique direct. Elle a un nom, elle s'appelle la météorologie de l'espace, déployer des instruments pour prévoir quand on va être touché par des bulles de plasma comme ça, et ça a un impact sociétal, hein. Il y a des cas de centrales électriques qui disjonctent, ou des taux de radiation qui sont importants pour les aéronefs qui volent à haute altitude. Donc c'est un enjeu aussi sociétal, à la fois économique, pour l'armée. Mais aujourd'hui, moi, je vais me contenter de parler uniquement de la contrepartie aurorale et la partie physique. Donc, j'ai prévu un petit bilan à mi-parcours, hein, juste pour vous rappeler que le Soleil, c'est une étoile active qui émet de la lumière et des particules avec une charge électrique, un plasma, et ce plasma s'expand dans tout le milieu interplanétaire, il baigne tout le système solaire, on appelle ça le vent solaire. Quand ce plasma rencontre un obstacle avec un champ magnétique, eh bien, il dessine, par équilibre de pression, une cavité magnétique, qu'on appelle une magnétosphère, qui a une forme de goutte d'eau, hein, qui est compressée côté jour et puis qui est allongée côté nuit, et à l'intérieur de laquelle le mouvement des particules avec une charge électrique est gouverné par le champ magnétique planétaire. On peut étudier cet objet, une magnétosphère qui est invisible, en utilisant des aurores, qui sont en fait la projection de l'activité de la magnétosphère sur l'atmosphère. En fait, les aurores, c'est comme l'atmosphère agit comme un écran, et les aurores, elles s'allument là où tombe le pied des lignes de champ magnétique qui sont connectées à une région active. Donc, on utilise en fait l'atmosphère comme un écran d'oscilloscope. Là où ça s'allume, on est sûr que c'est actif. Et comment on retrouve la région active ? Eh bien, avec des modèles de champ magnétique de ce type-là. Et deux choses importantes, pour produire des aurores, il faut une source de particules, un réservoir de plasma. Sur Terre, la source principale de plasma qui remplit la magnétosphère, c'est le vent solaire, mais pas que. La haute atmosphère terrestre participe aussi au remplissage de la magnétosphère. Et ensuite, il faut leur donner de l'énergie hein, pour qu'ils puissent tomber profondément dans l'atmosphère. Et le mécanisme sur Terre qui est responsable de ça, il s'appelle les sous-orages, et il est directement le résultat de l'interaction entre la planète et le vent solaire. Ça va pour tout le monde. Alors, dans le système solaire, on a d'autres planètes avec un champ magnétique. Vous avez un petit panorama ici, la Terre, j'en ai parlé. On a les planètes géantes et puis on a aussi Mercure. Et alors, les champs magnétiques, c'est-à-dire les barreaux aimantés qui sont produits à l'intérieur des cœurs planétaires, ont des caractéristiques qui sont tout à fait différentes. Alors, des fois, on a des axes magnétiques qui ne sont pas très éloignés de l'axe de rotation. Sur Terre, hein, le pôle sud magnétique, il est à peu près à 10 degrés de latitude du pôle nord géographique. Et puis, il se promène, en fait, hein, parce que le mécanisme de génération du champ magnétique Il implique une dynamo dans le cœur planétaire. Et puis cette dynamo, ce n'est pas juste une roue qui tourne. Hein. Il y a des mouvements compliqués du plasma à l'intérieur du cœur planétaire. Et donc, le résultat, c'est que l'orientation du champ magnétique se promène. Le pôle magnétique est pas tout le temps au même... Les pôles magnétiques ne sont pas tout le temps au même endroit. Mais c'est un processus qui est très lent. Et donc, on ne s'en aperçoit pas nécessairement quand on se promène dans ces régions-là avec une boussole. Donc ailleurs, voilà, Jupiter, Saturne ont des champs magnétiques qui sont relativement proches de l'axe magnétique. Pour Saturne, il est même parfaitement aligné, ce qui est un problème de physique en soi. Et puis, dans d'autres cas, on a des planètes comme Uranus, Neptune ou Mercure qui ont des champs magnétiques qui peuvent être beaucoup plus atypiques, beaucoup plus inclinés. Et tout ça, ça dessine en fait des magnétosphères qui ont des caractéristiques très différentes les unes des autres. Donc on étudie, on a peu d'objets, et aucun d'entre eux ne se compare à un autre. Donc, c'est utile pour essayer de comprendre comment des mécanismes communs peuvent agir dans des conditions qui sont particulièrement différentes. Alors, je voulais vous... Pour la suite de cet exposé, ça va être un peu un panorama. Hein, je n'aurai pas le temps d'aller vraiment dans le détail des processus qui concernent les autres planètes, mais je voulais quand même vous donner un aperçu de ce qu'on peut voir et faire et comment on peut utiliser ces émissions pour étudier ces objets dans le système solaire, en commençant par Jupiter, hein, en suivant simplement un ordre... en s'éloignant radialement de la Terre. Jupiter a une magnétosphère qui, s'il était visible, serait l'objet apparent le plus grand dans le ciel. Il ferait, vous voyez, vous avez la Lune à l'échelle ici. Et pourquoi ? Parce que Jupiter est une planète qui a un champ magnétique extrêmement intense, le plus intense du système solaire. Dans le cas de la Terre, la distance entre la planète et puis le point subsolaire de la magnétosphère, donc en direction du Soleil, c'est à peu près 100 000 km. Pour Jupiter, c'est 100 fois plus. Et puis, la queue de la magnétosphère, elle peut s'étendre carrément jusqu'à l'orbite de Saturne, donc couvrir 5 unités astronomiques. Hein, une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres, donc c'est vraiment un objet physique, astrophysique, apparent très grand. Il a été découvert par l'observation de ses émissions radio de nature aurorale en 1955, dans l'après-guerre, quand on a commencé à observer le ciel avec des radiotélescopes. Les premières détections ont vu un signal qui correspondait à la position de Jupiter dans le ciel. Ça a été interprété comme la signature d'une émission radio-aurorale. Et donc le terme de magnétosphère, donc ces émissions radio-aurorales ne peuvent être produites que lorsqu'il y a un champ magnétique. Hein, c'est parce que les électrons tournent autour des lignes de champ magnétique qu'elles peuvent amplifier des ondes radio. Et donc le terme de magnétosphère qui a été déduit de cette découverte, il a été inventé pour le cas de Jupiter. Là, on est en 1955, on est avant les premiers lancements de sondes spatiales dans l'environnement terrestre qui vont passer dans les régions où on voit qu'il y a des particules stockées dans l'environnement terrestre et donc il y a aussi de magnétosphère. Ça, c'est un petit schéma juste pour illustrer quelques caractéristiques spécifiques de Jupiter. Donc Jupiter a un champ magnétique très intense, ça veut dire qu'il est assez peu sensible au vent solaire par comparaison avec la Terre. Par contre, il a une lune volcanique qui orbite très près de lui, qui s'appelle Io, et cette lune, elle dégaze à peu près une tonne de matière qui est ionisée tout de suite dans la magnétosphère de Jupiter. Donc c'est Io, la lune volcanique, qui est la principale source de plasma pour cette magnétosphère. Par ailleurs, Jupiter est la planète qui est certes la plus grosse, mais qui tourne aussi le plus vite. Elle fait un tour, son champ magnétique, c'est une planète gazeuse, hein, donc on ne peut pas vraiment se fier à des points de repère sur les nuages ici qui tournent tous dans des sens différents. Par contre, le champ magnétique qui est produit dans le cœur planétaire tourne à une vitesse qui est constante et qui est de 9h55. Donc on voit passer la même région du champ magnétique tous les 9h55, ce qui est très rapide pour une planète comme ça. Les émissions aurorales radio ont été détectées dans les années 50 avec des radiotélescopes. Les émissions aurorales optiques ont été détectées par les sondes Voyager hein, quand elles ont survolé Jupiter dans les années 79-81. Et puis après, on a pu faire des images composites de ce type-là avec le télescope spatial Hubble, où là, vous avez une représentation des aurores boréales et australes de Jupiter avec une morphologie un petit peu différente de ce qu'on a vu à la Terre et sur lequel je vais revenir rapidement. Alors ici, vous avez l'ombre portée du satellite Io, hein, celui-là même qui alimente la magnétosphère en plasma et qui est responsable d'une partie de ce qui se passe au niveau des pôles magnétiques. Alors ça, c'est un zoom de la région nord, de l'ovale nord. Donc c'est des images qui sont non traitées. Là, vous avez les images scientifiques avec lesquelles on travaille, qui ont été prises par Hubble dans l'ultraviolet. Donc Hubble, c'est un satellite en orbite terrestre. Hein, il observe de loin avec un miroir de 2,40 m. Le mécanisme d'émission est le même que celui qu'on a discuté tout à l'heure pour les émissions optiques visibles de la Terre, c'est l'émission par impact. On a des particules, essentiellement des électrons, qui tombent dans la haute atmosphère de Jupiter. Elles activent les espèces chimiques qui sont présentes. Et ici, pour les planètes géantes, c'est une atmosphère beaucoup plus simple que dans le cas de la Terre. Les molécules sont beaucoup plus simples, c'est surtout l'hydrogène atomique et moléculaire. Et ces deux espèces-là, elles rayonnent plutôt dans l'UV. Donc, Il existe des aurores visibles, mais qui ne sont pas facilement identifiables, parce que d'une part, quand on observe le côté jour de Jupiter, elles sont complètement masquées par la lumière solaire qui est réfléchie par le disque. Et donc, il faut, quand on veut observer les aurores visibles, il faut aller du côté nuit de Jupiter avec une sonde spatiale qu'observe vraiment dans certaines conditions. Donc, ça a déjà été fait. Mais le plus simple, c'est encore d'observer avec des lunettes UV, parce que là, on n'est pas dérangé. Il y a de la lumière solaire qui est réfléchie ici par le disque, mais le contraste est excellent parce que l'émission est efficace. Alors, on distingue généralement les émissions aurorales de Jupiter en trois catégories, mais vous verrez que c'est plus compliqué. Là, vous avez d'abord un ovale qui ressemble à quelque chose qui a plutôt la forme d'un haricot, là, ici, un peu incurvé ici. Et cet ovale, il indique qu'il existe un mécanisme capable d'accélérer des particules tout autour de la planète. Je ne rentrerai pas dans le détail ce soir, mais on a montré que ce mécanisme, son moteur, c'est la rotation très rapide de Jupiter. Et donc, contrairement à la Terre, c'est ici la rotation du champ magnétique qui va être à l'origine de l'énergisation des particules qui sont dans l'environnement de Jupiter. Un mot quand même sur cette forme de haricot. En fait, on n'a pas un ovale bien dessiné parce que le champ magnétique n'est pas tout à fait dipolaire, c'est pas tout à fait un aimant, et il a une topologie un petit peu plus compliquée. Ici, il y a une anomalie magnétique dans le Nord qu'on peut en fait tracer, diagnostiquer, retrouver, identifier grâce à des images comme ça, des images de la forme juste de l'ovale auroral. Donc c'est une autre information physique qu'on peut obtenir sur la topologie du champ magnétique. Un peu plus tard ont été découverts, dans les années 80, des espèces de taches ici, dont on a identifié qu'elles correspondaient en fait au pied des lignes de champ qui sont connectées à un satellite qui est en train de tourner autour de Jupiter. Donc la tache la plus brillante ici, si on suit la ligne de champ magnétique, elle va aboutir à Io, c'est ce qui est montré sur ce petit diagramme-là. Celle-là, elle correspond au satellite Europe qui est un peu plus loin, et celle-là au satellite Ganymède qui orbite à 15 rayons de Jupiter, donc c'est bien bien en dedans de la magnétosphère de Jupiter. Ces satellites, ils voient donc le champ magnétique de Jupiter. Là, on est vraiment dans l'intérieur, le cœur en fait, de la magnétosphère. Et donc, comme ils sont conducteurs électriquement, ils arrivent à accélérer des particules. C'est comme le phénomène d'induction, en fait. Quand vous passez une barre aimantée sur un circuit électrique, vous arrivez à générer un courant électrique. Et bien là, c'est exactement la même chose. On force en fait un matériau conducteur à se déplacer dans un champ magnétique. Et le résultat de ça, c'est que ça peut accélérer des particules qui vont ensuite être piégées et enfilées comme des perles le long des lignes de champ magnétique jusqu'à tomber dans l'atmosphère. Oui ?
De retrouver la localisation des satellites à partir de leur empreinte sur la magnétosphère.
Eh bien oui, justement. Là, avec cette image, on sait que Io est par là, que Europe est dedans et que Ganymède n'est pas très loin.
On peut le calculer ?
Alors, on peut le retrouver. Si on n'avait aucune information sur ce système, par exemple, si on observait une exoplanète dans laquelle on voyait des signaux périodiques, on pourrait en déduire l'existence de lunes actives et puis retrouver leur position, absolument. Il y a des petites subtilités qui font qu'il y a des petites variations. Vous voyez, il y a des queues, c'est des choses de deuxième ordre. Et ensuite, la troisième chose, le troisième composante aurorale sur Jupiter, c'est ce qu'il y a au cœur, là, ici, de l'ovale aurorale. Si vous voyez des animations, on voit que ça clignote. Ça correspond aux lignes de champ magnétique qui vont le plus loin dans l'atmosphère, celles qui sont à la limite, en fait, entre la magnétosphère et le milieu interplanétaire. Et donc, on pense que le moteur ici, c'est vraiment l'interaction entre la magnétosphère et le vent solaire, c'est-à-dire un peu ce qui intervient dans le cas de la Terre, mais ici, ça concerne une toute petite partie des émissions en termes de puissance émise. Alors ça, c'est l'image qu'on avait avec HST jusque dans les années 2000-2010. Et puis, depuis 2016, il y a une sonde spatiale américaine qui s'appelle Juno, qui est en orbite polaire autour de Jupiter. Donc là, c'est vraiment l'âge d'or hein, pour les collègues qui travaillent sur Jupiter et la physique aurorale de cette planète, parce qu'on n'a jamais eu une sonde orbitale polaire qui passe dans ces régions hein, où se produisent ces mécanismes d'accélération. Et puis, là, vous avez deux images. Une image grand public a été reconstruite à partir du spectro-imageur infrarouge. Bon, là, c'est juste pour illustrer que plus on améliore les performances d'un instrument et plus on va près, et plus vous voyez le niveau de complexité augmenter. Hein. Donc là, il n'est plus question de parler d'un ovale principal. Vous voyez qu'il y a la notion d'ovale ici. Il y a des arcs, ils ne sont pas continus. Il y a des régions diffuses. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Hein. On est en train de passer à l'échelon supérieur. Et ça, c'est une autre image. C'est une image scientifique, hein, telle qu'on les trouve dans les articles, où vous voyez une vue polaire des aurores UV. Ça, c'était infrarouge, UV. Et là, vous voyez les empreintes du satellite magnétique projetées. On essaye d'analyser ce qui se passe le long de la trajectoire de Juno. Voilà, ici, on a intercepté telle région. Là, on a intercepté telle autre. On compare ça aux données électrons qu'on mesure in situ pour essayer de comprendre la microphysique de ce qui se passe. Je vais m'arrêter là pour Jupiter. Je vais vous dire quelques mots à propos de Saturne, qui est un objet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. 10 unités astronomiques. Un peu plus loin, Saturne a aussi une magnétosphère. Elle possède un champ magnétique qui est beaucoup moins intense que celui de Jupiter. En termes d'amplitude, il se compare plutôt à celui de la Terre. Mais comme elle est située plus loin, sa magnétosphère est plus grande. Saturne a une spécificité. Donc, en termes de source de plasma, elle est sensible au vent solaire. Son champ magnétique est plus faible. Mais elle a aussi une lune active, qui est la lune Encelade, qui dégaze par cryovolcanisme une quantité de matière qui peut être ionisée. En termes de rapport, c'est 100 fois moins que ce qu'on trouve sur Jupiter. C'est plutôt 10 kg de plasma produit par seconde qui vient néanmoins alimenter cette cavité. Saturne, le champ magnétique de Saturne, le cœur de Saturne tourne vite, hein, 11 heures quasiment. Et c'est une magnétosphère qui a été explorée en détail par la mission Cassini, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a fini en fait son tour orbital par une série d'orbites polaires qui ont fait exactement ce que Juno est en train de faire à Jupiter en ce moment. Si ce n'est que c'était au bout de 10 ou 12 ans de mission. Et donc, il y avait certains des instruments qui n'étaient pas forcément dans leur meilleure forme à ce moment-là. Néanmoins, on a pu faire de très belles choses. Et là, je voulais vous montrer des images, donc d'abord prises avec HST et ensuite avec spectro-imageur UV de Cassini, pour vous montrer, en fait, de la même manière que pour Jupiter, quand on améliore les performances d'un instrument, et qu'on se rapproche, on voit apparaître un degré de complexité qu'on ne pouvait pas soupçonner au départ. Donc les gens, dans les années, en 1994, l'auteur de l'article a dit, voilà, Saturne, il y a une tache aurorale, elle est située toujours du côté matin. Comment on explique ça? Si elle est située toujours du même endroit, en termes de temps local, toujours du même côté de la planète, ça doit être parce qu'il y a un effet du vent solaire. Donc le vent solaire doit être à l'origine de cette tache. Des campagnes d'observation se succèdent, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas juste une émission côté matin, il y a un ovale, et puis cet ovale, des fois, il est calme, là, vous le voyez par la tranche au moment de l'équinoxe, des fois, il est actif, et des fois, il est très actif. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait quand même un rôle prépondérant de l'activité solaire. Et puis ensuite, vient la mission Cassini, on fait des observations de plus en plus près, puis vous voyez que cet ovale, il se subdivise en différentes régions, il y a un ovale diffus, et donc, on va dans un degré de complexité supplémentaire. Pour ce soir, je me contenterai de dire que Saturne qui possède un champ magnétique parfaitement aligné avec son axe de rotation, les deux sont indiscernables, Saturne possède un ovale, et en raison des caractéristiques de cette magnétosphère, cet ovale est alimenté, en termes de moteur, le mécanisme d'énergisation, à la fois par la rotation rapide du cœur planétaire, mais aussi par l'interaction avec le vent solaire. Et cette interaction avec le vent solaire, elle a été montrée, c'était un résultat spectaculaire de l'approche de la mission Voyager de Saturne. À un moment, les scientifiques de la mission Voyager 1 était en train d'approcher de Saturne et Voyager 2 était encore près de Jupiter. Et puis, on observait les émissions aurorales, mais dans le domaine radio. On les voit de loin tout le temps, parce qu'on a des antennes radio qui nous permettent de capter ce signal au long cours. Et puis, à un moment, on a vu un stop complet de l'activité aurorale. Et ça s'est produit périodiquement pendant une période de plusieurs mois. Et puis, les gens ont réalisé, en fait, que pendant ces moments-là, Saturne était entré dans la queue de la magnétosphère de Jupiter. C'est comme ça qu'on a su qu'elle pouvait s'étendre jusqu'à 5 unités astronomiques. Et quand ça se produit, eh bien, le milieu incident n'est plus le vent solaire, le milieu interplanétaire en provenant du Soleil. On est dans la queue de la magnétosphère de Jupiter où les conditions sont complètement différentes. Et donc, quand ça se produit, quand on coupe le vent solaire, l'activité aurorale s'éteint. Donc, le vent solaire à Saturne a une activité qu'on a pu mettre en évidence dès les années 80, qui est reliée au vent solaire, mais qui est aussi contrôlée par la rotation rapide de la planète. Et un résultat amusant de la mission Cassini, ça a été d'identifier qu'il y a aussi une interaction planète-satellite avec la Lune Encelade, dont on a vu les panaches de matière ici qui éjectent du plasma qui vient peupler la magnétosphère de Saturne. Et donc, par plusieurs survols rapprochés, les spectromètres de particules ont pu identifier des faisceaux de particules qui remontaient les lignes de champ. Et à quelques semaines d'intervalle, on a identifié une tache exactement au pied de la Lune, pied magnétique de la Lune, avec un modèle de champ, on peut reconstruire les deux. Et donc, c'est le deuxième cas d'interaction planète-satellite après Jupiter. Alors ça, c'est intéressant. Je fais juste une parenthèse parce que Quand on extrapole ce type d'études à des systèmes qu'on ne pourra pas aller explorer avec des sondes spatiales, donc des exoplanètes, des étoiles, on peut tout à fait imaginer que le cas de l'interaction planète-satellite se transpose facilement à un cas d'interaction étoile-Jupiter-chaud, hein, une planète qui va orbiter très près, qui est conductrice et qui va se déplacer dans le champ magnétique de l'étoile. Donc c'est intéressant de pouvoir étudier ces phénomènes localement dans le système solaire pour bien comprendre la physique derrière ces phénomènes, pour pouvoir interpréter des choses qu'on détectera peut-être plus tard, mais d'objets qu'on ne pourra jamais aller explorer. Je vais finir par quelques mots sur Uranus. Uranus, c'est une planète qui n'a pas d'équivalent dans le système solaire. Je vous l'ai dit, c'est un peu le cas de tous les objets, mais celle-là, elle est particulièrement gratinée, si je peux dire. Donc Uranus, c'est d'abord une planète dont l'axe de rotation il est situé dans le plan de l'écliptique. Donc elle roule sur le côté, hein, donc il y a tout un tas de scénarios, impacteurs géants, bon. Et son axe magnétique, il est décalé de 60 degrés. 60 degrés, c'est énorme. Ça veut dire que l'axe magnétique, il est là. Uranus, enfin, le champ magnétique, le cœur planétaire fait un tour en 17,24 heures. Et donc, 7 heures et demie après, il est là. Mais en fait, quand vous changez en 7 heures seulement l'axe magnétique d'un tel angle, ça veut dire que toute la magnétosphère se reconfigure. Donc c'est une magnétosphère en tire-bouchon qui est très dynamique et en l'espace de quelques heures, il se passe plein de choses. Les régions de stockage du plasma évoluent. Donc on peut s'attendre à ce que les mécanismes de transmission et dissipation d'énergie évoluent aussi. Bon, elle est loin du Soleil. Elle a un champ magnétique aussi de type Saturne, mais elle est loin du Soleil. Elle n'est pas très. Le vent solaire agit comme une source de plasma assez faible, elle n'a pas de lune active, donc la magnétosphère est plutôt vide. Et je vous l'ai dit, elle tourne relativement rapidement sur elle-même. Et donc, au moment où cette magnétosphère a été découverte, donc par un seul survol, d'une seule mission, Voyager 2, le 24 janvier 1986, donc on a en tout et pour tout in situ que quelques heures de données sur cet objet, c'est pour ça qu'on veut le réétudier, il y avait un spectro-imageur UV qui a fait des balayages. Alors, ce n'était pas des spectro-imageurs performants comme ceux que je vous ai montrés hein, pour les missions Juno et Cassini, où on a une fente qui balaye, on peut reconstruire des images. Là, il n'y avait pas trop de résolution spatiale, donc il y a eu des petites séquences d'observation. Et quand on met le disque planétaire, les chercheurs de l'époque ont détecté des signaux, voilà, c'est les ronds ici, hein, donc il y avait des signaux de nature aurorale qui étaient situés à différents endroits sur le disque. Mais bon, on n'en savait pas plus, et puis le rapport signal sur bruit était quand même faible. Et depuis 1986, ben, il ne s'était rien passé, hein, c'est un objet qui est loin. Voyager a décollé en 1977, elle est arrivée à Uranus en 1986 et elle n'a fait qu'un survol. Hein. Donc si on voulait envoyer une mission orbitale, il faudrait aller plus lentement et puis il faudrait freiner en arrivant, donc ça prendrait beaucoup plus de temps, c'est plutôt de l'ordre de 12-15 ans. Et donc en attendant, ben, on n'avait aucune information sur la magnétosphère. Néanmoins, on a des télescopes en orbite terrestre comme Hubble, hein, avec lesquels on peut observer les aurores de Jupiter ou de Saturne, qui sont des émissions brillantes qu'on peut observer régulièrement, ça ne posait pas de problème. Mais pour Uranus, ça avait été tenté plusieurs fois et les gens n'avaient rien détecté. Et donc, il y a 14 ans, on ne rajeunit pas, on a réessayé d'observer cette planète avec Hubble, dans la gamme UV, pour faire des images exactement comme celles de Jupiter et Saturne que je vous ai montrées. Et pour ça, on a adopté une nouvelle méthode. On s'est dit, plutôt que d'observer n'importe quand, on va faire l'hypothèse que la magnétosphère d'Uranus, qui a un champ magnétique assez faible, elle est aussi sensible au vent solaire qu'au moins la Terre et Saturne. Et donc, si on observe en passage de conditions actives dans le vent solaire, on devrait avoir un forçage auroral qui devrait nous aider à détecter quelque chose, s'il y a quelque chose à détecter. Donc, on a attendu fin 2011... parce qu'il faut observer pendant l'opposition, c'est-à-dire quand Uranus est du côté nuit de la planète, parce que la distance est minimale, et puis c'est les meilleures conditions d'observation. Et puis il s'est trouvé qu'à cette époque-là, on était un peu dans la configuration suivante. Il y avait un alignement de Jupiter avec le Soleil, la Terre, et puis Uranus. Et puis on a suivi l'activité solaire, et on s'est dit, bon, on va attendre ces fameuses bulles de plasma, et quand on en détectera, ben, on essaiera de voir si on peut les suivre, du Soleil à la Terre, mesurer l'activité aurorale, de la Terre à Jupiter avec des modèles numériques, mesurer l'activité aurorale avec des observatoires qui existent hein, ou des missions spatiales, et puis essayer de prédire quand est-ce que ces bulles de plasma atteindraient Uranus. Et figurez-vous que ça a marché, et on a obtenu les premières images en fait, résolues de ces émissions aurorales d'Uranus. Je vous passe les détails, hein, mais voilà, 2 mois après, hein, le vent solaire met 2 mois typiquement à aller à Uranus. Ça nous laisse 1 mois pour faire les calculs, planifier les observations et puis recommencer celles qui ratent. Et voilà à quoi ressemblent les aurores d'Uranus. Ce sont des images composites hein, où vous voyez que ce sont des structures très localisées. Elles sont très transitoires, elles ne durent que quelques minutes. Elles sont beaucoup plus faibles que celles de Saturne ou Jupiter, et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal à les détecter. On a réitéré en fait ce type d'observation en 2011, en 2012, en 2014, en 2017, en 2020, 2022 et 2023. Et là, vous avez ici, sur cette image, qui est une image scientifique, hein, toutes les détections aurorales d'Uranus à notre disposition, c'est-à-dire pas beaucoup, en fait, hein, vu ce qu'on a fait. Et les aurores, ce sont ces régions d'émission qui sont très faibles et qui bougent, en fait, avec la planète. Alors, je vous parle de ça parce que là, on est vraiment sur l'actualité scientifique qui concerne notre équipe. En développant une méthode pour essayer de retrouver la position des pôles magnétiques avec des modèles de champs magnétiques contraints par la position des signaux auroraux, en analysant ces 15 ans d'observation, on a pu déterminer une nouvelle période de rotation interne d'Uranus, hein, qui met à jour celle qui était connue de Voyager 2 en 1986, avec une précision qui est 100 000 fois meilleure. Et donc, ce sont des résultats qui vont paraître la semaine prochaine ou celle d'après dans un journal bien connu. Un mot sur Uranus. Il y a un enjeu, en fait, pour comprendre la magnétosphère d'Uranus, parce qu'elle a été explorée qu'une seule fois et avec un survol et avec des instruments qui ont été construits. Donc, 86, hein, la sonde a été lancée en 77 avec des instruments des années 70, hein, validés spatiales. Donc, il y a un besoin, en fait, dans l'exploration du système solaire. Uranus, c'est vraiment le parent pauvre avec Neptune, qui est situé encore plus loin. Et il y a un besoin d'aller explorer cet environnement planétaire in situ pour la magnétosphère en ce qui me concerne, mais aussi pour l'étude des satellites, de l'atmosphère et puis de l'intérieur planétaire. Donc, c'est vraiment la future grande mission d'exploration planétaire. On n'est pas comme dans le cas de Mars où les missions se succèdent et on peut avoir un suivi multidécennal sur cet environnement. Là, on a quelques points de mesure et c'était en 86 et c'est tout. Et puis, il y a quelques images que je vous ai montrées là. Et puis, j'arrive vers la fin, donc je n'aurai pas le temps d'aborder en détail, mais je voulais juste, par souci d'exhaustivité, vous montrer quelques autres cas d'aurore qu'on connaît dans le système solaire. Alors, Mercure, je vous ai dit, c'est une planète qui a un champ magnétique très faible, très ténu. Mercure est située très près du Soleil, et l'exploration de la magnétosphère de Mercure, c'est l'objet de deux missions, une qui est finie, un Messenger, la mission américaine, et puis une qui arrive, la mission européenne, qui s'appelle BepiColombo, qui va étudier en détail tout l'environnement de cette planète. Et donc, on a pu, avec de premières mesures en rayon X, identifier des lieux de précipitation qui ressemblent en fait à des aurores X qui existent sur Mercure et qui vont nous aider à diagnostiquer ce qui se passe. Mercure, faible champ magnétique, très près du Soleil, on s'attend à ce qu'elle soit très, très sensible au vent solaire et qu'il y ait un mécanisme de type sous-orage qui soit forcé, beaucoup plus intense, important, rapide que ce qui se passe à la Terre. Alors, il y a le cas de Ganymède. Ganymède, c'est un satellite de Jupiter qui orbite à 15 rayons de Jupiter, donc dans la magnétosphère de Jupiter. Et Ganymède est le seul satellite du système solaire qui possède son propre champ magnétique. Et donc, ça crée une magnétosphère dans une magnétosphère. Et Ganymède possède aussi des aurores que vous voyez ici. Alors là, c'est de l'émission par impact. L'exosphère de Ganymède, elle est plutôt constituée d'oxygène, donc c'est des raies de l'oxygène, c'est pas de l'hydrogène comme pour l'atmosphère des planètes géantes. Et avec ces vues, donc là on a une vue de face, là on a une vue de dos, en traçant en fait la position de ces précipitations, on peut reconstruire, on peut contraindre en fait le champ magnétique induit qui est généré par Ganymède et en déduire des contraintes sur la salinité de l'océan souterrain qui est sur ce satellite. Donc c'est un autre moyen d'utiliser les émissions aurorales pour avoir des informations physiques sur un objet et sur un endroit qu'on ne pourra pas vraiment aller explorer, hein, donc le cœur planétaire ou alors un océan souterrain. Et puis je voulais finir avec ces images de Mars sur lesquelles Jean a travaillé aussi. Alors peut-être pas celle-là exactement. On a détecté sur Mars des aurores diffuses et puis discrètes, c'est les espèces de petites signatures qui sont là, depuis quelques temps maintenant, avec Maven et puis une sonde Emirati qui s'appelle EMM, qui avait un spectromètre UV. Et ça, c'était surprenant parce que Mars n'a pas de champ magnétique à grande échelle, je ne l'ai pas mentionné jusqu'ici. Mars, comme Vénus, hein, Vénus n'a pas non plus de champ magnétique à grande échelle, donc on ne s'attendrait pas à ce qu'il se passe des choses, mais Mars est une planète rocheuse, avec des poches de champ magnétique rémanents, ça existe aussi sur Terre, hein, les roches ont conservé le souvenir d'une aimantation plus globale en fait, à une époque antérieure. Et donc, il y a des poches de champs magnétiques qui forment des mini-magnétosphères isolées qui peuvent aussi interagir avec le vent solaire et être la source d'accélération de particules qu'on peut diagnostiquer avec des émissions aurorales. Et Jean, je crois que tu avais travaillé sur les bandes de Cameron, de CO, si je ne me trompe pas. Voilà, donc si je fais un petit récapitulatif de ce que j'ai essayé de vous donner comme message dans cette conférence, les magnétosphères du système solaire génèrent des émissions aurorales, des aurores polaires, polaires pour les pôles magnétiques, qui sont des émissions lumineuses intrinsèques intenses. On peut les observer à plein de domaines de longueur d'onde. Je vous ai parlé aujourd'hui beaucoup des émissions visibles optiques. Moi, ma spécialité, c'est plutôt le domaine radio, qui ne permet pas forcément de faire des images aussi intuitives que les images qu'on a vues ici. Observer les aurores, c'est donc un moyen d'étudier à distance ces objets qui sont invisibles et puis les processus qui affectent fondamentales de physique des plasmas qui s'y déroulent hein, en termes d'énergisation de particules, transfert d'énergie et dissipation sous la forme de photons. Alors on peut faire ce type d'études avec des grands projets, donc des sondes d'exploration spatiale, mais aussi des grands télescopes terrestres, soit en orbite autour de la Terre. L'atmosphère terrestre est opaque hein, dans le domaine UV, c'est pour ça qu'on a besoin d'envoyer des télescopes dans l'espace pour pouvoir observer dans cette fenêtre de longueur d'onde, soit au sol, parce que dans le domaine radio, on n'est pas limité, hein, il y a une fenêtre dans l'atmosphère qui est transparente au niveau radio, et donc on peut construire des grands radiotélescopes au sol, comme ceux de la radioastronomie de Nancy, qui est située dans la forêt de Sologne et que Guillaume a évoqué brièvement tout à l'heure. Et il y a un enjeu, j'ai déjà évoqué, à la compréhension de de la microphysique aurorale de ces objets, c'est qu'on souhaite s'en servir comme diagnostic d'objets plus lointains qu'on ne pourra jamais aller explorer. Donc la détection d'exoplanètes en radio, c'est un sujet très chaud de la communauté en ce moment. Il y a beaucoup de campagnes d'observation qui sont menées avec des instruments de plus en plus grands pour atteindre la sensibilité nécessaire pour détecter ces émissions. On a beaucoup de techniques pour détecter les exoplanètes, mais celle-là, comme je pense que vous l'avez vu ce soir, elle permet d'apporter des informations nouvelles sur le champ magnétique, la période de rotation, la présence de lune, l'orientation du champ magnétique, donc tout un tas d'informations physiques sur l'objet qui est à la source de ces émissions. Je peux néanmoins vous dire que ce n'est pas un objet qui est propre à un corps planétaire. On peut avoir des émissions aurorales sur tout objet qui possède un champ magnétique. Et on a déjà détecté des aurores radio sur des étoiles, il y en a plus d'une vingtaine à l'heure actuelle, où on commence à trouver ce type de ressemblance avec, on parlait tout à l'heure d'interactions étoiles-planètes, qui se comparent à des interactions planètes-satellites. Voilà, et je voulais vous donner deux références, deux bouquins qui sont très bien si vous voulez aller plus loin. Un bouquin, alors la résolution n'est pas très bien, qui a été écrit par Jean, chasseur d'aurore, et puis un bouquin de Fabrice Mottez, dont j'ai montré un graphe tout à l'heure, qui est paru chez Belin récemment, dans lequel vous trouverez tout un tas de détails. Et enfin, la personne qui nous filme ici, Jean Mouette, est l'auteur d'un spectacle de visualisation des aurores en 3D qu'on n'a pas pu vous proposer ce soir, ça aurait pris trop de temps, mais ce spectacle est donné fréquemment à la Fête de la Science, donc n'hésitez pas à lui demander et à venir observer ça pour discuter avec ce phénomène bien visible. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation. Donc, alors on a vu que tu n'as pas réussi à voir d'aurore en Provence, mais tu en as vu sur Uranus. Bon, c'est quand même pas si mal. Alors, il y a quelques questions, commentaires sur Internet. Est-ce qu'il y en a déjà une question dans la salle ? Oui, je vous en prie.
Vous avez dit que le vent polaire était polarisé au tout début. Le vent solaire, par contre, était polarisé au tout début de la conférence. Et c'est quoi le phénomène qui induit qu'il soit polarisé du coup dans un sens ou dans l'autre, du coup qui provoque
Alors en fait, je peux dessiner. Le Soleil a un champ magnétique intrinsèque. Donc si on le regardait, par la tranche, hein, on pourrait retrouver la même topologie de dipôle quand il a un champ magnétique dipolaire. C'est pas toujours le cas. Le vent solaire, en général, on le regarde dans le plan de l'équateur, parce que c'est là où on trouve le plan de l'écliptique, les planètes qui sont balayées par ce vent solaire. Si on regarde maintenant le vent solaire dans ce plan-là, dans la tranche, les lignes de champ magnétique, elles s'étendent radialement au départ. Et le Soleil, lui, il tourne. Il fait un tour en à peu près 26 jours. Donc, en réalité, ces lignes de champ, elles s'entortillent ici, comme ça, et elles dessinent une spirale qu'on appelle la spirale de Parker. C'est-à-dire que le long de ces lignes de champ qui s'entortillent autour du Soleil vont circuler des faisceaux, vont être guidés, hein, comme les paires sur un fil, des faisceaux d'électrons très énergétiques. Là, on parle du vent solaire énergétique. Donc, ces lignes de champ magnétique, elles ont une polarité. Elles sont ancrées dans la photosphère solaire et puis elles gardent leur direction. Hein, si elles émanent du pôle Nord, et bien elles ont cette polarité. Donc quand on les regarde depuis, cette fois-ci on repasse dans le plan méridien, quand on regarde le vent solaire au niveau de la Terre, quand on regarde le vent solaire qui s'expand radialement au niveau de la Terre, et bien localement, en fait, le plasma, il est transporté sur des lignes de champ magnétique qui ont une polarité dans un sens ou dans un autre. Et ça évolue en fonction du cycle solaire, parce que c'est un phénomène fluide, et donc on peut se trouver dans une poche où la polarité est dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça que ce phénomène des sous-orages, il se produit périodiquement. Ce n'est pas un truc qu'on trouve que pendant les épisodes de maximum solaire. Est-ce que ça répondait à ta question ?
Merci. Alors, il y a une question d'un internaute hyper attentif qui a noté qu'au début, quand tu as montré la Terre avec un aimant, enfin ton schéma, tu mettais le pôle sud de l'aimant vers les régions boréales et le pôle nord vers les régions australes.
Absolument.
Alors, il y a un sens, ça veut dire quelque chose. Que tu peux en dire plus sur ce point, s'il te plaît ?
Oui, bah, en fait, quand on fait circuler un plasma, c'est le sens de rotation du plasma nous donne l'orientation du champ magnétique. Et il se trouve que sur Terre, contrairement aux autres planètes, le pôle nord magnétique est au sud, géographique. Ce n'est pas très important. Hein, avec une boussole, on a toujours la direction. Mais en termes de topologie, d'orientation des lignes de champ magnétique, c'est important. Parce que ça veut dire que si... je vais remontrer le schéma. Ça veut dire que du coup, l'orientation du champ magnétique au niveau... du point d'entrée de la magnétopause qui fait face à la Terre, il est dirigé vers le haut. Et donc, pour qu'un phénomène de sous-orage se produise, il faut la configuration antiparallèle dans le Soleil. Si c'était l'inverse, ça se produirait dans l'autre configuration. Ce pôle sud magnétique, je pense que c'est indiqué là. Hein. Hop là. Voilà. Ici, vous avez... c'est représenté, hein, le pôle nord magnétique, ici, il est dirigé vers le bas, et ce n'est pas le cas des autres planètes du système solaire. Bon, Uranus, c'est un peu particulier, parce que son pôle nord, il est lui-même dans l'hémisphère sud, donc c'est toujours une question de convention, on n'est jamais d'accord avec les autres. Et alors, je peux vous montrer un transparent qui montre, je crois, si je l'ai bien ajouté. J'avais prévu ça, hop. Excusez-moi. Voilà, ça, c'est... un schéma qui montre le déplacement du pôle sud magnétique, qui est donc au nord du Canada, là, en fonction des années. Alors, les années ne sont pas très lisibles, mais là, c'est 1954, là, c'est 2001. Et donc, vous voyez, le pôle sud magnétique se promène parce que l'axe magnétique, en fait, il bouge en fonction de ce qui se passe dans le noyau terrestre. Il n'est pas toujours au même endroit, alors que l'axe de rotation, il est toujours au même endroit. Hein. La Terre, c'est une toupie qui tourne autour d'un axe qui bouge, qui oscille un petit peu, mais...
C'est quelle région là ? J'arrive pas à reconnaître. Là, on est où sur Terre là ?
Tu sais ? Ben alors,
tu sais pas bien non plus. Désolé. Bon, c'est au nord.
Je vais regarder si j'ai une meilleure résolution, si je peux te donner le nom d'un lac, au moins ça.
C'est en
voilà,
Russie,
donc
c'est ça,
depuis 1831, le pôle magnétique migre en direction du nord-ouest à une vitesse qui est d'environ 40 km par an.
Merci. Une autre question, un commentaire dans la salle, oui ?
Merci pour la présentation. J'aimerais savoir, pour les planètes telluriques, notamment les deux qui n'ont pas de champ magnétique, on sait pourquoi ils ont perdu leur champ magnétique ?
Un champ magnétique, ça renvoie à une activité dans le cœur planétaire, une activité tectonique, une activité interne. Donc, dans le cas de Mars, on sait que le corps s'est refroidi et que l'activité tectonique n'est plus là. Il y a des volcans sur Mars, mais on n'a plus d'activité qui pourrait être associé à la génération d'un champ magnétique. Et c'est probablement le cas aussi pour Vénus. Donc, c'est des corps qui se sont refroidis. Et en se refroidissant, l'activité s'est atténuée. Donc, il ne nous reste plus, dans le cas de Mars, que les traces en fait, d'une activité magnétique passée qui est enregistrée dans les roches.
Alors, sur le chat, il y a une question peut-être un peu naïve, mais prenons-les aussi. Est-ce que la tache rouge de Jupiter, c'est un lien avec les aurores ?
Non, ça n'a aucun lien avec les aurores. Alors, la tache rouge de Jupiter, c'est un, C'est un anticyclone qui a été découvert par Cassini, Jean-Dominique Cassini, il y a 350 ans et des brouettes. Et c'est rigolo, c'est un phénomène atmosphérique dont la taille va en diminuant avec les années. Et si on extrapole la loi, d'ici 30-40 ans, elle devrait avoir disparu. C'est un objet c'est l'anticyclone le plus grand dans le système solaire. Il dépasse la taille de la Terre. Il n'a aucun rapport avec les aurores, mais c'est une structure qui intéresse beaucoup nos collègues qui font de la dynamique atmosphérique. En termes de, on ne comprend pas comment un anticyclone a pu se maintenir pendant une période de temps aussi longue, même si sa taille varie. Voilà, mais la réponse à la question, c'est non. Ça n'a pas de rapport, c'est dans les régions équatoriales, ce n'est pas dans les régions polaires magnétiques. Et en plus, c'est un phénomène atmosphérique. C'est la circulation des vents qui fait que la matière se circule sous une certaine forme. Ça n'a pas de rapport avec les électrons qui tombent et qui allument de la lumière là où ils tombent.
Merci. Reste-t-il encore une ou deux questions dans la salle ? Oui ? Prenez le micro, s'il vous plaît.
Le fait qu'une planète a ou n'a pas une magnétosphère, est-ce que la vie est probable ou improbable ?
Alors, c'est une bonne question. Il est clair qu'en termes de météorologie de l'espace, avoir une cavité, un bouclier magnétique, ça protège d'un taux de radiation trop important. Pardon. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des avions, des sondes spatiales qui ne sont pas grillées, parce qu'elles orbitent dans un environnement qui est quand même relativement préservé en termes de taux de radiation. Bon, il y a des régions, les ceintures de radiation terrestre, c'est des régions où c'est des réservoirs de plasma très énergétiques très proches de la Terre. On n'a pas trop envie d'envoyer des satellites là-dedans parce qu'ils ont une durée de vie assez limitée. Si on n'avait pas de champ magnétique, le taux de radiation serait beaucoup plus important. Mais dans ce genre de cas, on se retrouvait dans une configuration de type Mars ou Vénus, où en fait, on peut générer dans une couche limite une magnétosphère induite. Le plasma ne va pas traverser de toute façon la planète, il va faire le tour. Mais disons que la région qui va former une zone de choc, qui va délimiter en fait, l'environnement planétaire, va être beaucoup plus fin. Donc, ça correspond à un niveau de radiation plus élevé. Sur Terre, le champ magnétique varie, et donc il y a eu des épisodes où le champ magnétique a disparu pendant un bref moment, avant de réapparaître avec une polarité différente. Il y a des renversements de champ magnétique, donc vous poserez des questions à Jean, il est plus expert que moi sur le sujet. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans ces moments où le champ magnétique s'inverse, se retourne. Ça s'est produit de nombreuses fois sur les millions d'années passées, sans régularité apparente. Donc ça diagnostique vraiment des choses peut-être qui se passent de manière un peu aléatoire ou chaotique dans le noyau terrestre.
Allez, une toute dernière question.
Une question encore très naïve, très probablement. Est-ce que le fait d'étudier ces aurores boréales nous permettraient éventuellement...
Polaire.
Pardon, excusez-moi. C'est la fatigue. Ces aurores polaires nous permettraient de faire une cartographie stellaire, entre guillemets, plus exactement de système solaire, pour naviguer avec des vaisseaux à voile solaire, en l'occurrence.
Alors... Il y a des moyens de propulsion de sondes spatiales qui font appel au vent solaire sous la forme de voiles solaires où on déploie des grandes surfaces collectrices et puis avec le vent solaire qui pousse, on met un temps très long à gagner de l'inertie, mais c'est une accélération qui est très longue puisque tant qu'on est dans l'héliosphère, c'est-à-dire la cavité qui englobe le système solaire, on peut bénéficier de cette attraction. Donc ça n'a pas de rapport direct avec les aurores, mais toutes les étoiles émettent un vent. Et effectivement, en arrivant ailleurs, près d'une autre étoile, on pourrait servir de ce même mécanisme peut-être pour ralentir et donc en faire un moyen de voyage en fait interstellaire. Pour des technologies comme ça qui existent, qui sont étudiées, c'est quand même des échelles de temps qui sont très très longues, qui dépassent de loin une vie humaine. Je crois qu'il y a un projet d'envoyer une mission spatiale vers le système stellaire le plus proche, donc Proxima du Centaure. Il y a des échelles de temps qui sont données qui seraient commensurables avec une vie humaine, mais les défis technologiques à résoudre pour arriver à faire ça, chaque défi, c'est une question qui devrait mobiliser. Enfin, voilà, c'est un enjeu scientifique en tant que tel. Je crois qu'il y en a 12, il pourrais inviter mon collègue Pierre Kervella pour parler de ça. Et donc, c'est des technologies beaucoup plus efficaces où on accélère avec des lasers situés partout sur Terre, sur une surface qui doit rester stable, donc il faudrait qu'elle ait une forme de boule. Et après, une fois qu'on a acquis la vitesse, il faut ralentir une fois sur place. Enfin, voilà, il y a plein de questions comme ça. Donc, il y a des travaux exploratoires. Et oui, on travaille sur ces principes de voile solaire, mais on n'en est pas encore à une maturité qui permettrait d'envisager, voilà, d'envoyer un vaisseau sur un système stellaire voisin. Bientôt, peut-être, j'espère.
Très bien, merci. Ben, je vous propose d'arrêter là. Merci à vous de nous avoir suivis ici. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Internet. Je vous rappelle que nous retrouvons le 1er avril prochain avec notre collègue Corentin Cadieu de l'IAP qui nous parlera de l'univers dans une boîte. Et puis, Laurent Lamy, de nouveau, merci pour cette conférence. Voilà. Bonsoir à tous. Au revoir.